Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Cheuseville à l'antenne, toujours très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Heureux particulièrement aujourd'hui puisque c'est notre première émission de la nouvelle année 2024. Dans cette émission hebdomadaire Panorama Info, j'évoque régulièrement des questions géopolitiques impliquant des problèmes insolubles de légitimité historique. Par exemple, la légitimité de la présence des Arméniens sur des territoires ne faisant plus partie de l'Arménie depuis longtemps, comme par exemple l'Artsar, le Haut-Karabakh, dont j'ai souvent parlé. Ou encore, la légitimité des droits des peuples autochtones sur des territoires où ils ont vécu depuis des milliers d'années, comme en Papouasie, en Australie ou encore en Amazonie. Ces questions de légitimité se transforment souvent en conflits ouverts ou violents lorsqu'il y a double légitimité, lorsque deux légitimités s'affrontent. Et le pire survient souvent lorsque ces questions prennent des dimensions religieuses. C'est le cas en ce qui concerne la ville souvent qualifiée par nos grands médias de trois fois sainte, c'est-à-dire Jérusalem. Cette triple sainteté se révèle, hélas, être une triple malédiction, car elle en a fait couler des rivières de sang. Cette sainteté, cette triple sainteté, durant les deux derniers millénaires. S'il n'y avait pas eu de dimension religieuse dans la question de Jérusalem et au-delà de la terre promise tout entière, sans doute eût-il été plus aisé de trouver un compromis pouvant satisfaire les trois légitimités. Jérusalem peut difficilement être divisée, car elle abrite des lieux saints juifs, chrétiens et musulmans, parfois distants de quelques dizaines de mètres seulement. Pire, deux de ces lieux saints sont même superposés, l'un étant édifié sur un autre. Je veux parler de ce que les Juifs appellent le mont du Temple, sur lequel s'élèvent deux sanctuaires musulmans, le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa. Le premier fut érigé à la fin du 7e siècle, sur un site où la tradition biblique place le sacrifice d'Abraham, l'endroit même où Salomon fit édifier un temple afin d'y abriter l'Arche d'Alliance au Xe siècle avant Jésus-Christ, soit plus de 16 siècles avant la construction du Haram al-Sharif, le Dôme du Rocher, sous le règne du calife Abd al-Malik. Certes, le temple de Salomon fut détruit sur l'ordre du roi babylonien Nabucodonosor II en 586 avant Jésus-Christ. Mais dès 538 avant Jésus-Christ, les Hébreux le reconstruisirent au même endroit. C'est un édifice connu sous le nom de Second Temple de Jérusalem qui fut à son tour incendié et rasé, cette fois par la soldatesque romaine de Titus en l'an 70 de notre ère. Lorsque le second successeur de Mahomet, le calife Omar ibn al-Khattab, visita les lieux après la prise de Jérusalem par ses armées arabes, il n'y découvrit qu'un vaste champ de ruines. Et, après y avoir prié, il décida d'y édifier le Haram al-Sharif, ou Dôme du Rocher, que l'on peut encore admirer de nos jours. On ne peut, hélas, l'admirer que de l'extérieur, puisque son entrée est interdite aux non-musulmans. Juifs et chrétiens ne peuvent donc pas contempler le rocher qui affleure au centre de l'édifice, celui-là même où Abraham s'apprêtait à sacrifier son fils. Et encore moins y prier, bien sûr. L'histoire de ce dôme du rocher résume à lui tout seul la complexité du conflit israélo-arabe. Où se trouve, en effet, la légitimité ? Est-elle du côté des Juifs, dont les ancêtres bâtirent successivement deux temples en ce lieu ? Est-elle du côté des musulmans, qui édifièrent le Haram al-Sharif, voici plus de 14 siècles ? Certains Juifs extrémistes et messianiques rêvent de raser le dôme du rocher afin de pouvoir y édifier à sa place le troisième temple. En dehors du fait qu'une telle destruction constituerait une catastrophe pour l'humanité tout entière du point de vue patrimonial, artistique et historique, je n'ose même pas imaginer la conflagration mondiale qu'une telle action engendrerait immanquablement. Fort heureusement, tous les gouvernements israéliens qui se sont succédés depuis la réunification de Jérusalem en 1967 ont fait en sorte que le statu quo soit maintenu sur le mont du Temple, où les Juifs n'ont même pas le droit de venir prier. Pour accomplir leur dévotion, ils doivent se contenter du mur occidental, surnommé par les non-juifs, mur des lamentations. Les Hébreux l'appellent le Kotel, enfin les Juifs l'appellent le Kotel. Ce mur est en fait le mur de soutènement de l'esplanade où s'élevait le temple de Salomon et où s'élève depuis le Haram al-Sharif, le dôme du rocher. Ce statu quo est insatisfaisant, tant pour les uns que pour les autres, et il est source de tensions quotidiennes. Bien malin, celui qui pourrait imaginer une solution acceptable pour tous. Quiconque s'est rendu à Jérusalem, quiconque s'est promené dans les ruelles de la vieille ville ou sur l'esplanade des mosquées, sait qu'une éventuelle partition de la ville est impossible. Jérusalem doit rester indivisible et ses lieux saints devraient, suis-je tenté de dire, demeurer accessibles à tous. Le cas de Jérusalem n'est pourtant pas unique au monde, même si c'est sans doute le plus connu. Il est une autre ville sainte qui fait l'objet de revendications conflictuelles et où la tension est vive. Depuis le début des années 1990, Ayodhya est devenu le centre d'un conflit intercommunautaire entre musulmans et hindous. En effet, se trouvait dans cette ville la mosquée de Babri, ou aussi appelée mosquée de Babur, construite en 1528 à la place d'un temple hindou consacré à Rama. Or, ce site est, pour les hindous, celui que le Ramayana désigne comme le lieu de naissance de Rama, et donc l'un des lieux les plus sacrés de l'hindouisme. Le 6 décembre 1992, une manifestation organisée par les nationalistes hindous contre l'existence de cette mosquée dégénéra et elle aboutit à la destruction complète de la mosquée. S'ensuivirent de très violents affrontements dans tout le pays qui causèrent la mort d'au moins 2000 personnes, principalement des musulmans. La destruction de la mosquée avait porté un coup dur au fondement de l'ordre politique laïque de l'Inde, ouvrant la voie à la montée du nationalisme hindou, devenu la force politique dominante du pays. Les résidents musulmans d'Ayodhya, qui se souviennent des émeutes meurtrières, se méfient de l'atmosphère de ferveur religieuse qui y règne à nouveau. Mais pour de nombreux hindous, le projet est un moyen de redonner à la ville la gloire que lui confèrent les anciens textes hindous. Ayodhya est une cité antique et une ville de l'Inde située dans l'état de l'Uttar Pradesh. Son nom hindi est d'origine sanscrite et il signifie « qui ne peut être conquis ». Cette ville de 50 000 habitants est située dans le nord de l'Inde, dans la périphérie de Faizabad, sur la rive droite du Ghagra, à 500 km à l'est de New Delhi et à 160 km à l'est de Lucknow. Il s'agit d'une ville sainte de l'hindouisme. Elle est considérée comme sacrée car elle est supposée avoir été la capitale du royaume de Rama, le héros du Ramayana. Qui est donc ce fameux Rama, personnage mythique, censé être né à Ayodhya? Rama, c'est le nom sanskrit, cette langue morte du sous-continent indien. Il est connu en hindi sous le nom de Ram. Alors Ram est un roi véritable ou mythique de l'Inde antique, dont la vie et les exploits héroïques sont relatés dans le Ramayana, l'une des deux épopées majeures de l'Inde, écrite en sanskrit. Des données astronomiques extraites du poème épique permettraient de dater le règne de Ram approximativement au XXe siècle avant Jésus-Christ. Le Ramayana a été fixé par écrit plusieurs dizaines de siècles après le règne supposé de Ram, probablement autour du début de l'ère chrétienne. Cependant, les dévots hindous acceptent le Ramayana comme un compte-rendu fidèle de la vie de Ram, de la vie du Ram historique. Dans l'hindouisme, Ram ou Rama est considéré comme le septième avatar du dieu Vishnu. Il est l'image de l'homme parfait et est adoré au même titre que son compagnon Hanuman, la fidélité incarnée, le dieu singe qui l'aide dans ses aventures. J'ouvre là une petite parenthèse pour dire qu'Ayodhya a ce nom Ayodhya a été donné à d'autres villes de par le monde. Je pense en particulier à Ayutthaya, l'ancienne capitale du Siam, l'actuelle Thaïlande. Ayutthaya se trouve à environ 80 km au nord de Bangkok. Pour compliquer encore un peu le cas d'Ayodhya, cette ville est également sacrée pour deux autres religions indiennes. D'abord, il y a les Jaïnes, qui affirment que 5 de leurs Tirthankara sont nés à Ayodhya, et cette ville est donc pour eux un important lieu de pèlerinage. J'ouvre une nouvelle parenthèse pour expliquer ce que sont que les Tirthankara dans le jaïnisme. Les Tirthankara sont les maîtres jaïnes qui sont pris comme des lumières de la foi du jaïnisme car ils ont atteint l'état d'omniscience, le Kevala Jnana, ce qui leur a permis d'enseigner à des disciples la voie du moksha, c'est-à-dire de l'illumination. Ensuite, selon la tradition bouddhique, Gautama Bouddha donna quelques enseignements à Ayodhya. Au 7e siècle, le pèlerin bouddhiste chinois Xuanzang visita la ville et il y compta 20 temples bouddhistes hébergeant 3000 moines, au sein cependant d'une population majoritairement hindouiste. À la fin du 19e siècle, on dénombrait 96 temples hindous et 36 mosquées à Ayodhya. Après la destruction du de la mosquée de Babur. Le gouvernement indien a fini par acheter le terrain contesté afin de le soustraire aux factions rivales. Des fouilles ont été entreprises sur le site pour vérifier la validité des revendications des dévots de Ram. Et ces fouilles ont confirmé ces revendications, du moins quant à la présence d'un lieu de culte hindou antérieur à la mosquée. Dans l'attente d'une autorisation pour commencer des travaux de reconstruction du temple, les hindous se mirent à dresser des plans pour un nouveau temple. Les matériaux nécessaires à sa construction ont été bénis et entreposés à quelque distance du site. Un marathon légal opposant hindous et musulmans a finalement abouti à un verdict rendu par la Cour suprême indienne le 9 novembre 2019. Le terrain controversé d'Ayodhya a été alloué dans son intégralité à la communauté hindoue pour la construction de leur temple. En compensation, la communauté musulmane s'est vue allouer un terrain de 5 acres. En août 2020, le Premier ministre indien Narendra Modi a donc pu poser la première pierre d'un temple géant dédié à Ram. Samedi 30 décembre, il y a quelques jours donc, il est revenu à Ayodhya afin d'y inaugurer l'aéroport flambant neuf de la ville. Un premier avion a pu y atterrir et, en débarquant, les passagers ont déclamé leur amour pour Ram et pour le Premier ministre. Je cite l'un de ces passagers. « La ville d'Ayodhya s'est tellement transformée depuis la construction du temple. C'est l'endroit le plus sacré de l'Inde. Atterrir ici, c'est le plus beau jour de ma vie. » Un autre a déclaré, je cite toujours, « Narendra Modi est une nouvelle forme du dieu Ram. Il doit être vénéré non seulement à Ayodhya, mais dans tout le pays. » Le Premier ministre s'est offert une parade dans les nouvelles artères de la ville. Il a été acclamé par une immense foule. Dans son discours, Narendra Modi a déclaré devant des milliers de personnes que, je cite, « Si un pays veut atteindre de grands sommets, il doit prendre soin de son héritage. » Fin de citation. Le 22 janvier prochain est la date qui a été choisie pour installer les idoles religieuses dans le temple géant qui est en train de sortir de terre. Mais la visite du Premier ministre avait aussi des allures de campagne électorale, alors qu'il vise sa réélection en 2024. La construction du temple d'Ayodhya, d'un coût estimé à environ 220 millions d'euros, a contribué à renforcer son image de gardien de la religion majoritaire de l'Inde. Invoquant le risque d'un afflux ingérable de pèlerins pour l'inauguration, Narendra Modi a demandé aux hindous de ne pas venir y assister le mois prochain. « J'appelle tout le monde à célébrer la fête chez soi et à venir à Ayodhya plus tard », a-t-il ainsi lancé à la foule. Contrairement à Jérusalem, le problème d'Ayodhya a d'abord été réglé par la force d'une émeute populaire qui a conduit à la destruction d'une mosquée vieille de près de 5 siècles, avant d'être résolue par la voie légale. Mais cette solution était-elle satisfaisante pour tous? Certainement pas. Nul doute que la destruction de leur vieille mosquée a attisé la haine des Indiens musulmans envers leurs compatriotes hindous. Sans doute nourrissent-ils aussi des rêves de vengeance, même s'ils peuvent construire une nouvelle mosquée sur le terrain qui leur a été alloué. On le voit, dans ces conflits de légitimité imprégnés de sentiments religieux exacerbés, il est bien difficile de rendre un jugement de Salomon, c'est-à-dire un jugement équitable pour tous. Je vous laisse sur ces quelques mots. chers auditeurs et auditrices, je vous renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année qui débute et je vous dis à la semaine prochaine.